tout a commencé. C'était au fin fond de l'Amazonie, ou en plein milieu du Sahara. En été 1920, ou peut-être au printemps 2000. En définitive, ça n'a pas grande importance. Ce ne sont que des détails. C'est à ce moment précis, donc, que ce qui devait arriver arriva. Il pleure en riant la mort de cet être cher, encore vivant. Depuis qu'il vit dans ce récent état d'ancienne solitude, il passe son temps à boire, baigne dans un univers délirant de rationalité, où chaque chose a rigoureusement sa place dans le désordre, où sa vie est réglée par les heures régulièrement décousues des repas et des informations qu'il regarde à la radio. Il passe des heures entières dans un fauteuil, où il lit un journal qu'il ouvre invariablement à la même rubrique, le carnet du jour. Après s'être assuré que son nom y figure bien, il lit en sommeillant son journal replié dans sa poche pour éviter de regarder cette photo toute la journée. Cette omniprésence de l'absent l'habite et le hante. Chaque pas, chaque mouvement, chaque geste, chaque objet est habité par son souvenir. Pourquoi as-tu choisi la corde ? Maudite corde. Terrible la corde au cou. Mais voilà, tu voulais prendre ta liberté. C'est terrible, la liberté. C'est une prison, cette liberté. Lorsqu'il était enfant, il passait de longues heures dans sa tour d'ivoire. Personne n'avait l'autorisation d'entrer dans ce sanctuaire ou opérer la magie de son petit théâtre de marionnettes. Là, il réinventait le monde à travers des histoires et donnait vie aux personnages extraordinaires issus de son imagination. C'est à ce moment de sa vie qu'il a su qu'il deviendrait écrivain. Et puis, il y a eu le temps, cet ennemi de l'innocence et de la pureté. Avec lui, il s'est égaré sur le sentier aux innombrables chemins de la connaissance, où les livres sont rois. Les livres, ces pollueurs de la pensée, de l'idée, ces entraves à la création. Il est alors devenu le docteur esthète, à la tête pleine et au cœur sec. L'écrivain, dont l'instance créatrice n'est plus qu'un grand palimpseste, contaminé par les savoirs accumulés depuis la nuit des temps. L'homme, enfin, qui se laisse ronger par un mal inconnu, une sorte de délirium chronique qui le plonge dans un état d'angoisse permanent. L'angoisse. L'angoisse de la page blanche, du vide, du néant. Sa plume tremble, mais n'écrit pas. Les pages restent vierges. Il sent le vide. Il se sent vide. Il sent la mort. Mort. C'est ça, il est vivant mais mort, mort de l'intérieur. À la naissance de son fils, son mal se dissipe peu à peu. et l'inspiration lui revient. À travers ce petit être, il revit avec une touchante sincérité sa propre enfance, et son écriture retrouve une touche de naïve fraîcheur et une teinte d'innocence laiteuse. Mais voilà, ce n'était qu'une courte trêve dans le chemin de la création. Car maintenant qu'il a perdu cet enfant pour toujours, tout s'écroule à nouveau autour de lui, et cette fois, c'est pour de bon. Ce soir-là, donc, après dîner, il va comme d'habitude dans le salon. Il allume un bâtonnet d'encens et s'installe dans son fauteuil pour écouter de la musique. Il met la radio et cherche un canal qui convient à sa passive et pesante mélancolie. Sons et parfums le plongent alors dans un bien-être lourd et distendu. Tout est si étrangement calme qu'il rêve éveillé. Il se voit assis dans son fauteuil, en train de lire un conte. L'autre le même. Sur la page de couverture, l'illustration attire son attention. C'est un miroir. Il ouvre le livre et se laisse guider par les mots. Il érigea un tombeau pour protéger la table d'émeraude, qui n'est autre que le livre des livres, qui renferme le secret de la création des êtres et des causes de toutes les choses. Avant de l'enfermer à jamais, il décida d'extraire des personnages du Saint-Livre et de leur donner vie. C'est ainsi que naquit le peuple scribe, appelé ainsi car issu de l'écriture, mais aussi par rapport à sa mission. En effet, chaque scribe possédait son propre journal intime, sur lequel il devait écrire tout ce qui sortait de son imagination sans jamais consulter celui de l'un de ses semblables, en échange de quoi le Maître suprême lui concédait la jeunesse éternelle. C'était une façon de protéger la pureté de l'écriture. Un jour, Adonai s'adressa au scribe par l'intermédiaire de son messager et leur dit « Cette île est à vous. Tout ce qu'elle contient vous appartient, à l'exception du tombeau à la table d'émeraude. Tous ceux qui se risqueront à l'approcher dans l'intention de voir ce qu'il renferme redeviendront mortels et seront condamnés à errer dans la tour de Nemrod pour tenter de décrypter l'énigme sans fin. » Mais malgré cette mise en garde, nombreux furent ceux qui, piqués par la curiosité ou par un excès de zèle, enfreignirent ce commandement. Tous périrent avant d'avoir trouvé le message de la délivrance. qui, juste après la naissance de son premier fils, s'était promis de percer le secret du tombeau à la table d'émeraude. Après avoir fait ses adieux à sa femme et à son fils Hermès, il partit avec pour seul bagage son journal et un crayon. Il marcha longtemps, longtemps. Il arriva enfin au fameux tombeau. À peine l'avait-il touché que le sol se mit à trembler. Le tombeau s'entr'ouvrit et propulsa la table d'émeraude qui vola en éclats pour retomber en une pluie de livres qui ensevelit Zeptos et lui fit perdre connaissance. Un vrombissement sourd et incessant le réveilla. Il se trouvait dans une grotte, étendu sur le sol. Cet endroit, sombre et humide, était éclairé à la faible lueur de quelques torches accrochées aux parois. Seule, une étroite galerie de laquelle provenait un petit filet d'eau permettait d'accéder à ce lieu. Son journal et son crayon gisaient à quelques pas de lui. Il se leva péniblement, car son corps meurtri le faisait souffrir, et alla les chercher. Son journal était ouvert, et lorsqu'il le ramassa, il put lire ces mots écrits en lettres incandescentes. « Bienvenue dans la tour infernale de Nemrod. Nombreux sont ceux qui ont passé leur existence à chercher le message de la délivrance, mais tous ont perdu la vue et sont morts avant de l'avoir trouvé. À toi maintenant. N'oublie pas que ton journal est ton confident et ton guide. Tes écrits pourront t'aider dans ta quête. Tu dois résoudre l'énigme suivante. Quatre lettres composent le nom de ton créateur. À toi de les trouver. Si tu y parviens, le Maître suprême te délivrera le secret de la création et tu recouvreras la liberté et l'immortalité. Bonne chance. Un dernier conseil. Emprunte la galerie et laisse-toi guider par le petit filet d'eau appelé Styx que tu ne devras jamais perdre de vue. Zeptos mit le crayon dont la mine était encore chaude dans son journal et le referma. Il se dirigea vers le mince ruisseau et se lança dans l'aventure. Il dut se baisser pour pouvoir pénétrer dans la galerie, tant elle était basse et étroite. Il marcha longtemps, longtemps, le dos courbé. Le vrombissement sourd et incessant devenait de plus en plus présent, et s'y ajoutait le bruit de centaines d'enclumes qui martelaient invariablement le même rythme. L'atmosphère devenait oppressante et angoissante. À mesure qu'il avançait, la galerie s'agrandissait, si bien que Zeptos put enfin se redresser complètement. Son chemin, non sans peine, car la montée était de plus en plus raide et la fatigue et les douleurs commençaient à se faire sentir. Il arriva dans une petite pièce qui débouchait sur deux galeries, faisant se séparer le Styx en deux. Ne sachant quel chemin prendre, Zeptos s'en remit au hasard et s'engagea dans la galerie de gauche. Il se rendit rapidement compte que la voie était sans issue. Il allait rebrousser chemin lorsque sur le mur, une inscription attira son attention. Tu marches sur la première lettre. Il eut juste le temps. temps de lire cette phrase avant qu'elle ne s'efface, comme si elle avait été le fruit d'un songe. Zetos s'empressa de la noter sur son journal afin de ne pas l'oublier. Elle lui serait peut-être nécessaire à la résolution de l'énigme. Il retourna à la bifurcation et suivit cette fois-ci la galerie de droite. Après quelques minutes, le filet d'eau disparut. Zetos éclaira les alentours à l'aide de sa torche et s'aperçut que l'eau reprenait son cours un peu plus loin. Il se dirigea à cet endroit, et là, des voix déformées s'élevèrent de nulle part et s'entremêlaient en répétant la même phrase. « Tu viens de quitter la première lettre ! Tu viens de quitter la première lettre !» Zetos écrivit ce deuxième indice et réfléchit. Tout à coup, en traçant sur son journal le trajet du Styx, il s'aperçut qu'une lettre apparaissait. Un Y, oui, c'était ça ! Le dédoublement du Styx représentait les deux bras du Y. Convaincu d'avoir trouvé la première lettre, il se remit en route après avoir écrit le résultat de sa réflexion. L'humidité lui glaçait les os, mais il poursuivait sans relâche sa mission, plus désireux que jamais de percer le mystérieux secret. D'autres livres qui le précèdent et projections d'autres à venir, Zetos, qui était privé de la jeunesse éternelle, avait-il immédiatement vieilli sans même s'en apercevoir? Sa barbe avait poussé, ses cheveux blanchis, sa vue baissée, et sa peau s'était ridée. Rien dans cette bibliothèque infinie n'avait retenu son attention pour la résolution de l'énigme, jusqu'au moment où une violente rafale de vent s'engouffra par une ouverture, faisant tomber un livre d'une étagère.
Il lâcha le livre en découvrant son
décrit sous son journal ses deuxième trouvailles. Il reprit son ascension et arriva dans une salle distribuée par de nombreuses galeries. Toutefois, une seule abritait le petit filet d'eau, alors Zethos s'y engagea sans hésiter. Alors que les livres disparaissaient peu à peu des étagères, le Styx devenait de plus en plus abondant et débouchait sur un petit lac calme et clair. Zethos, épuisé, décida de se reposer. En allant se rincer le visage, il aperçut au fond de l'eau des galets, formant une sorte de oméga ou de W. Sa vue était tellement défaillante qu'il ne pouvait pas distinguer de quelle lettre il s'agissait. Dans le doute, il prit soin de les noter toutes les deux dans son journal. Il profita de ce moment de pause pour réfléchir et faire le point sur les lettres qu'il avait découvertes. Il était sûr de sa première lettre, un Y. Quant à la deuxième, elle était contenue dans le prénom de son fils, Hermès. Mais là, il ne savait pas quelle lettre choisir. En ce qui concerne la troisième lettre, il avait une chance sur deux de se tromper. Autant dire qu'il se sentait complètement perdu. Il réfléchit encore et encore, essayait d'y voir clair dans les lettres qu'il devait trouver, mais il restait sans solution. Il était si faible, si épuisé, qu'il s'assoupit. Dans son sommeil, une voix lui parla. « Zethos, la dernière lettre et la deuxième sont identiques, et elle est commune à ton prénom et à celui de ton fils. » À ces mots, Zethos se réveilla et essaya de trouver de quelle lettre il s'agissait. Dans son prénom et celui de son fils, il y avait deux lettres communes, le H et le S. Il fit toutes les combinaisons possibles et arriva à la solution. La lettre commune, c'est le H, et la troisième lettre n'est pas oméga, mais W. En effet, les quatre lettres, Y, H, W, H, sont celles du tétragramme, prononcé Adonai par les Juifs, nom de l'ancien Dieu dans l'Ancien Testament. Zethos était fou de joie. Il avait réussi à découvrir l'énigme. Son créateur est donc Adonai, qui signifie le maître suprême. Lorsque Zethos prononça les lettres magiques, Adonai apparut devant lui et le félicita. Toutefois, il lui dit « Zethos, tu as fait preuve de beaucoup de ténacité, de courage et d'intelligence. Mais tu vois, en voulant découvrir ce qu'était la table d'émeraude, tu t'es laissé égarer sur le sentier aux innombrables chemins de la connaissance, où les livres sont rois. Tu as ainsi perdu ta jeunesse éternelle, et avec elle ton âme d'enfant, si pleine d'innocence et de pureté. Tu as laissé ta raison guider ta réflexion, et non ton cœur. Tu vas à présent recouvrer la liberté, mais tu dois tirer une leçon de ton aventure. Il faut préserver la pureté originelle dans toute création, et ne jamais se laisser envahir et détruire par le savoir. Maintenant, va transmettre cette parole de sagesse à ton peuple. » Adonai et la tour disparurent, et Zethos se retrouva près de chez lui. Dès qu'ils le virent, tous les scribes accoururent et écoutèrent le récit de son périple avec beaucoup d'attention.
Thank you.
jeune vieillard se réveille. L'odeur de l'encens est dissipée et la musique a disparu. Dans ses mains, il tient un livre sur lequel sont symétriquement inscrits quelques mots, peut-être un titre. L'autre le même. L'image d'un miroir illustre la couverture. Il se regarde dans ce miroir et le livre s'ouvre. Il peut alors lire ces mots. À toi d'écrire maintenant. Tu es mon autre, de l'autre côté du miroir. La vive émotion que lui provoquent ces paroles étreint son âme jusque-là si desséchée et fait poindre quelques larmes au coin de ses yeux. Les pensées se bousculent soudain dans sa tête, une avalanche prodigue, un foisonnement de mots. Sang et vie reprennent subitement possession de son corps. Avec ces mots, rejaillit un flot intense d'inspiration, une envie délirante d'écrire. Le spectre livide de la page blanche et humide s'éloigne comme par magie. Poussé par ce tumulte nouveau, il se sent happé par le monde qui l'entoure et sort respirer l'air de la nuit. Les étoiles scintillantes semblent l'exhorter à accepter ce qui s'est passé en lui. Il lui apparaît soudain que son fils doit faire sa vie loin de lui, que pour leur accomplissement à tous les deux, il était nécessaire de le laisser partir. Leurs existences n'en seront pas moins insociablement liées à l'image d'un canon. Elles éviteront en augmentant et diminuant leurs différences. Elles emprunteront des chemins parallèles et contraires qui entremêleront leurs antécédents et conséquents, comme dans un subtil jeu de miroir.